Jean, chapitre 19.
30.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit.
Tout est accompli. Et un dernier passage qui se trouve tout à la fin, parce que tout a été accompli, au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Je ne vais pas lire tout le passage, mais à partir du verset 3.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. »
C'est fait. C'est fait. Ah oui. Ce matin, j'aimerais vous donner de bonnes raisons de vous investir dans l'opération Jean 3, 16. La parole de Dieu. Une parole qui est toujours actuelle dans un monde qui souffre de plus en plus. C'est la parole que Dieu veut donner à notre monde aujourd'hui encore. Dieu a quelque chose à dire à notre monde. Alors nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que contient en fait Jean 3, 16. Qu'on puisse pas seulement réciter par cœur Jean 3, 16, mais qu'on puisse entrer dans le contenu de Jean 3, 16 et découvrir que ce n'est pas seulement des paroles qui ont été mises dans un livre, la Bible. Ce sont des paroles vivantes. Et quand des paroles vivantes touchent notre être, ça produit quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Et puis on verra dans un second temps en quoi nous sommes concernés. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce Jean 3, 16 ? Nous allons entrer dans la période de l'année et nous allons converger tous les êtres humains, à moins d'habiter au fin fond de la brousse, puis encore, ou bien de la jungle, mais nous allons tous converger vers l'événement clé de l'histoire de l'humanité, la venue du Messie. La venue du Messie, du Christ sur cette terre. Et vous verrez que cette venue n'est pas le fruit du hasard. C'est plutôt le fruit de la nécessité. Ce n'est pas un accident de parcours. Ça a été prévu de longue date. Elle trouve son origine dans une parole, une prophétie que Dieu a faite tout au début de l'histoire humaine. Vous vous rappelez, on avait parlé du péché. Tout au début de l'histoire du péché dans le monde, Dieu a parlé. Dieu nous a dit des choses. Et pour ceux qui écoutent, pour ceux qui ont des oreilles qui entendent, ils entrent dans un chemin nouveau, un chemin de vie contre le péché. Mais concernant cette parole, c'est une prophétie extraordinaire. C'est tout converge, tout doit converger vers l'accomplissement de cette prophétie. Et nous la trouvons en Jean 3, 15. Est-ce que quelqu'un connaît par cœur comme Jean 3, 16, Jean 3, 15 ? Oh non, Genèse 3, 15. Hein ? Eh bien ça, c'est une prophétie, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà ce qu'elle nous dit. Donc on est aussi tout au début de l'histoire de la chute, de la rupture de relation avec Dieu. Et Dieu fait une promesse. Dieu prophétise. Il dit à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il y a une proclamation incroyable qui est faite à ce moment-là. « Je mettrai inimitié. » Qu'est-ce que ça signifie, inimitié? C'est le contraire de... Voilà, mais qu'est-ce... Vous voyez, moi, quand j'ai lu ce mot, je l'ai lu 200 fois peut-être, je ne sais pas ce mot. Mais j'étais dans le dictionnaire. Je ne savais pas ce qu'il voulait. Oui, inconsciemment, je me disais, oui, ça peut vouloir dire ça. Mais voilà, inimitié, c'est avoir de l'hostilité, de la détestation. Je déteste. Moi, j'ai détesté les choux Bruxelles quand j'étais petit. J'allais chez ma grand-maman. Mais je pleurais avant d'aller. Je détestais. Je finis comme par en manger. C'est être allergique. Quand on est allergique à quelque chose, on n'y touche pas. Ma femme est allergique aux petites crevettes. Elle n'en touche pas. Et si vous nous invitez à dîner, s'il vous plaît, ne faites pas de crevettes. Hein? C'est avoir de la haine. C'est avoir de l'aversion. Mais plus on ne peut pas. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous vous rendez compte la puissance, la profondeur de cette parole, hein? Là, Adam et Ève, ils sont perdus, hein, leurs descendants. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont dans une réalité nouvelle. Mais il y a une promesse de Dieu qui veut les entraîner dans sa réalité à lui. Donc cette postérité va écraser la tête du serpent. Il va lui blesser, il blessera le talon de la postérité de la femme. Vous savez, il y a des millions et des milliards de paroles qui sont proclamées chaque jour sur cette planète Terre. Vous vous rendez compte le nombre de paroles qui sont proclamées sur cette planète? Des milliards d'individus qui disent parfois n'importe quoi. Ben, certaines de ces paroles, et la plupart, heureusement, vont tomber dans l'oubli. Hein? Et puis d'autres vont avoir un impact sur une personne peut-être. Peut-être sur des milliers, des dizaines de milliers d'autres. D'autres encore de ces paroles peuvent avoir des conséquences positives ou dramatiques pour l'humanité entière. Rendez compte, une parole, et ça peut être la guerre mondiale. Une parole. Et puis il y en a assez là qui sont prêts à presser sur le mauvais bouton encore. Hein? Donc cette parole de Jean 3, 16 a été proclamée il y a bientôt 2000 ans. Est-ce que vous rendez compte de cela? À un endroit de cette terre, Jérusalem, de nuit, oh là là, de nuit, et à un homme. Nicodème. Et 2000 ans après, elle est toujours bien présente. Elle est toujours là. Elle parcourt nos villes. Elle parcourt nos campagnes. Elle fait le tour de la terre dans tous les sens. Elle est encore vivante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Ésaïe, chapitre 55, verset 8, Dieu dit « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet. » Quand Dieu dit quelque chose, imaginez, oui, des fois vous avez une parole forte, puissante, qui va mettre peut-être des gens dans l'embarras ou qui va corriger votre enfant. Hein? Quand vous lui dites quelque chose avec autorité, c'est une parole qui sort de votre bouche et elle va à la rencontre de la situation, de la personne, et quelque chose se passe. Eh bien, cette parole, Dieu l'a proclamée et il dit, elle ne reviendra pas à moi. Sans effet. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. La parole est plus vivante que moi. Dieu lui dit, maintenant tu vas faire cette mission-là. Allez, vas-y, pars. Et la parole part. Et elle accomplit son œuvre. Elle revient à Dieu, elle a fait son effet. Elle a rempli sa mission. Et puis il y a des millions, des milliards d'actions qui sont faites chaque jour. Il y a du blabla partout sur cette terre, mais il y a des actions qui sont entreprises chaque jour aussi par les hommes. Ben, certaines vont avoir des répercussions heureuses et d'autres vont avoir des répercussions dramatiques. Chaque jour, on est confronté à des actes, à des actions qui ont des conséquences. Chaque jour, moi-même, quand je me lève le matin, je vais accomplir pendant les X heures de la journée des actions. Certaines seront bonnes, d'autres moins bonnes, d'autres catastrophiques. Mais il en est une seule qui a le pouvoir de changer la face du monde. C'est la venue de la postérité de la femme. Annoncée dans Genèse 3,15. C'est la seule action qui peut changer la face du monde. Vous imaginez l'enjeu qu'il y a sur cette parole. Si la postérité de la femme passe à côté de sa mission, c'en est fini de l'humanité. On va passer toute notre éternité loin de Dieu. C'est l'enfer. C'est ça l'enfer. Ce n'est pas des flammes avec des petits diablotins qui viennent vous piquer le derrière, puis c'est pas ça. Non, mais dans l'inconscient collectif, c'est ça. Alors personne n'y croit, bien entendu, parce que voilà. Hein. Mais vivre son éternité loin de celui qui m'a créé, je peux vous dire que... Bon, enfin, je peux vous dire, j'ai pas d'expérience, heureusement, mais on peut imaginer ce que ça peut être l'éternité sans Dieu. Hein? Parce qu'il y a des moments où on prend conscience, il y a un nouveau mot qui m'est une fulgurance. C'est fulgurant. Ça vous vient et dit, oh, l'éternité, mon Dieu, sans lui. Hein? Ça dure quelques secondes, mais c'est comme une prise de conscience instantanée. Donc, Genèse 3,15 nous révèle que cette postérité-là va mettre un terme à l'hégémonie du serpent ancien, du prince de ce monde de ténèbres, du père du mensonge. C'est pas rien non plus. Il y a un enjeu invraisemblable. Le pire ennemi de l'humanité, c'est celui qui doit être abattu. C'est celui dont la tête doit être écrasée à un moment donné. C'est ce que dit Genèse 3,15. Et cet événement est annoncé. Et il constituera l'instant charnière de toute la vie, de toute l'histoire de l'humanité. Essayez d'étendre toute l'histoire de l'humanité. Regardez tout ce qui s'est fait dans le passé et tout ce qui se fera dans le futur. C'est le centre même de l'histoire. Tout doit converger là. Donc il y a une parole et il y a une action de Dieu. S'il y a des paroles et des actions des hommes, il y a aussi une parole et une action de Dieu qui se conjugue, et au travers duquel Dieu va manifester son amour inconditionnel par rapport à la race humaine. Dieu est fou d'amour par rapport à l'humanité. Il l'a imaginé, il l'a créé à son image, et il voit cette humanité partir loin de lui. Quand on voit la réaction de parents qui perdent leurs enfants, quand on voit à la télévision un reportage ou un film, par exemple, où on voit qu'un enfant disparaît, un petit, 3 à 4 ans, mais c'est la panique à bord, dans le couple, dans la famille, tout le monde est au courant, on affiche partout des images de l'enfant, ça vient sur les radios, ça vient à la télévision, dans les journaux, disparu. Mais Dieu ne veut pas qu'on disparaisse, loin de sa présence, loin de sa face, parce qu'il nous a créés pour cela. Et si on savait tout ce qu'on perd loin de lui, mais on prendrait nos jambes à notre cou pour courir vers lui. Mais il y a une espèce de maladie là qui est en nous, qui fait que voilà, on est sur cette terre et puis on s'imagine que voilà, pour vivre bien, vivons cachés de Dieu, faisons tout ce qui nous semble bien pour nous, etc., etc. Hein. Donc une chose est déjà sûre, c'est que personne ne peut empêcher cette parole de s'accomplir. La mission, elle a été clairement donnée par Dieu et cette parole va accomplir son œuvre. Or, qu'est-ce qu'il est dit dans le prologue de l'évangile de Jean ? Au commencement était Dieu. La parole était Dieu. Hein ? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui a reçu une mission. C'est cette parole qui va descendre sur la terre pour accomplir la mission. La prophétie de Genèse 3,15 s'est accomplie. Je ne veux pas rallonger, on le sait. Elle s'est accomplie. La postérité de la femme est là pour accomplir sa mission. Elle est venue, c'est ce qu'on va célébrer dans 25 jours, enfin dans un mois. Ce n'est pas le petit Jésus qui est venu dans la crèche avec des petits anges, là, tout bouffi, là, enfin tout dodu. Non! C'est la postérité de la femme qui vient pour accomplir sa mission. C'est le moment clé de l'histoire de l'humanité. Et dans ce seul verset de Jean 3,16, il y a quatre choses que nous devons réaliser et comprendre. Est-ce qu'on peut d'abord le proclamer à haute voix, tous ensemble ? Car Dieu a tant aimé le monde. Point. C'est pas dans la Bible, ça. Mais... qu'il a donné son Fils unique. Point. Afin que quiconque croit en lui, point, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, magnifique. Vous êtes prêts pour descendre dans la rue. Cette simple parole, un verset, un seul verset, résume à elle seule, à lui seul, la nature et le cœur de Dieu. Quand je lis ce passage, Dieu révèle sa nature profonde. Dieu révèle son cœur. Comment est-ce que je peux connaître quelqu'un ? Comment connaître Dieu? Pardon? Alors, ouais, en s'approchant de lui. Passant du temps avec lui. En lui parlant. Oui, vous voyez, il y a eu une évolution. Hein, en s'approchant de lui. Moi, un jour, je me suis approché d'Yvette, je ne la connaissais pas. Mais elle me plaisait bien. J'aurais pu me contenter de ça, j'ai dit. Je me suis approché de quelqu'un que j'aime bien, enfin, qui me plaît bien. Est-ce que c'était suffisant? Ben non. Alors, je me suis approché, et, assez près. Enfin, juste là, sur la chaise d'à côté, hein, faut pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est regardé quand même. Mais on aurait pu passer sa vie à se regarder, hein. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais... Voilà. Et puis quoi? On a commencé de parler. J'ai commencé d'apprendre à la connaître. Elle est là? Elle est là? Ah, non, non. J'ai commencé d'apprendre à la connaître quand on a commencé de parler. Qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu?
Je te dirai qui tu es.
Et voilà. Et voilà. Mais c'est, je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça. On connaît quelqu'un à partir du moment où la personne commence de dire des choses. Alors il y en a certains, au bout de 3 minutes, on se dit, ouf, là je vais m'éloigner. Hein. On va pas prolonger. Mais la parole révèle la profondeur de la personne. Quand vous avez discuté un certain moment avec des gens, vous les situez. D'accord? On sait plus ou moins. Mais on ne connaît pas encore en profondeur. Ok, on va continuer peut-être. Hein. Et nous venons d'assister tant aux États-Unis qu'en France. En France, ce n'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Des campagnes en vue des élections. Et ce n'est pas des petites élections municipales, même qu'elles sont importantes. Hein. Mais c'est quand même pour la magistrature suprême. C'est... être président d'un pays énorme, d'un gigantesque, avec une puissance incroyable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont fait connaître leurs intentions. Mais il y a des gens aux États-Unis qui n'ont jamais vu ni Donald Trump, ni Hillary Clinton en vrai. Ils ne l'ont jamais touché. Ils ne peuvent pas dire « je le connais » parce que j'ai pris un repas avec eux. Mais ils disent « oui, je le connais » parce que j'ai écouté ce qu'il nous proposait. Et les gens se font une idée sur un discours ou deux qu'ils ont entendu plus ou moins à la radio, télévision, et sur tout ce qui a été dit par rapport à ce discours. Et on se fait une image de la personne. On dit, celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, c'est un raciste, celui-là, c'est un communiste, enfin, voilà. Hein. Mais les paroles qui sont sorties de leur bouche révèlent leur vraie nature. C'est encore pas fini, hein, je vous le dis. Mais c'est la réalité. Or, ah ouais, c'est intéressant, le titre d'un journal français disait « À Béziers, Sarkozy bon, c'est bien, et Fillon se disputent le cœur des électeurs. » Ah, tiens, le cœur des électeurs, pas seulement leur intelligence, parce que ça, voilà, c'est pas très beau. Mais le cœur, on a tous un cœur. On a envie d'aimer. Bien sûr qu'on a un quotient intellectuel un peu différent, moi. Hein. Voilà, moi, j'accepte la chose, hein, ce n'est pas un problème. Mais le cœur, on a tous un cœur. Et on n'a pas des cœurs différents, on a tous des cœurs de pierre au départ. C'est la réalité. Hein. Et on essaye de parler au cœur de la personne. On essaye de la convaincre avec des paroles. Hein. Or, Dieu... que je n'ai jamais vu, me dit des choses. Qui a vu Dieu? Levez la main. Bon, je ne l'ai jamais vu. Mais ce Dieu que je n'ai jamais vu me déclare quelque chose. Il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Il me dit, j'aimerais tellement, je suis passionné de toi. Ta vie m'intéresse. J'ai envie de mettre le meilleur de moi-même dans ta vie. Enfin, il nous dit plein de choses. Alors, c'est le monde. Hein? Ah, encore une belle promesse, hein, qu'il ne pourra pas tenir. Ça, c'est le monde, hein, je dis. Voilà, hein. Ce sont que des paroles en l'air. Hein. Ben non, ce ne sont pas des paroles. Oui, alors, elles traversent l'air, ces paroles. Font le tour de la terre. Mais Dieu veut parler à nos cœurs. Ce n'est pas tellement l'intelligence qui l'intéresse. L'histoire nous montre que des gens très simples, archi simples, une fois qu'ils étaient dans la présence de Dieu, enrichis de cette présence, ils étaient capables de faire des choses invraisemblables. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vie de cette jeune chinoise qui a grandi dans les rizières, qui faisait peur aux oiseaux quand les oiseaux voulaient venir manger les grains de riz. Hein. Un jour, elle a rencontré Dieu. Ses parents étaient très pauvres, vraiment une famille chinoise au plus bas niveau. Le Seigneur a commencé de remplir ça. Elle a écrit 10 000 cantiques chrétiens. 10 000 cantiques chrétiens. Et l'orchestre philharmonique de... C'est comment la Chine ? Pékin ? Joue les airs de cette petite demoiselle. 10 000. Il y a peut-être plus depuis. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème. Donc, première partie de ce Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il ne peut pas dire autre chose, il ne peut pas vous le dire autrement. Je t'aime. Rappelez-vous le moment où vous avez dit à votre promis ou votre promise, je t'aime. Qu'est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va tourner le dos? Est-ce qu'il va me dire, ben, pas moi? Ça peut arriver, hein. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, mais... Je t'aime, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, Dieu fait connaître ses intentions. Hein? Alors bien sûr, comme je l'ai dit, des belles paroles pour le monde. Allez, vas-y, hein, ce Dieu qui parle et puis il ne se passe jamais rien. Hein? Ben, le problème c'est que pour le monde, c'est que Dieu ajoute à la parole l'acte. Ce qui n'est pas toujours le cas dans nos sociétés. Des beaux parleurs, on en a plein. Mais passer à l'acte, faire ce qui est vraiment juste, pour un ensemble, pour un pays tout entier, pour une humanité entière, ça, c'est vraiment compliqué. Hein, demandez à Obama, hein, tout ce qu'il a essayé de faire, puis voilà, ben, ça coince dans ceci, ça coince dans cela, la Chambre des représentants, bon, bref. Hein. Mais le jour où Dieu a mis cette parole en acte, eh ben, ça a secoué à Jérusalem. Il y a vraiment eu des choses assez bizarres qui se sont passées dans cette ville. Hein. Ça a été une onde de choc. Boum, hein. Au milieu des religieux, panique à bord, et au milieu de l'autorité politique, panique à bord. Le roi Hérode, ayant appris cela, donc que Jésus était né à Bethléem, fut troublé. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Hein, il est troublé. Le grand Hérode, le Tout-Puissant, il est troublé. Il assemble les principaux sacrificateurs, les scribes. Où doit naître le Christ? Où? Oh, vous savez où il doit naître le Christ? Ils ouvrent la parole, bien sûr l'Ancien Testament, et lui dirent à Bethléem, oups, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira un chef. Vous avez déjà vu dans les films avec les pirates. Pirates à bâbord, ils sont tous sur le bateau, là, en train de claquer des dents. Hein. Chef à bâbord, non, chef au lointain. Hein. Qui paîtra Israël, mon peuple. Mais vous rendez compte pour Hérode? Vous rendez compte pour les chefs religieux? Ouh, il y a un chef. Il y a un chef qui est là. Panique à bord. Quoi, un chef? Eh, mais c'est moi le chef. Non, c'est moi. Mais non, c'est moi le chef. Bon, on verra bien les prochaines élections. Hein. Mais il y a un chef qui est là. Genèse 3,15 est en train de se réaliser. Dieu ajoute l'acte à la parole. Ce n'est pas un chef de ce monde, c'est le grand chef. Eh bien, cette deuxième phrase, Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Quand on aime, on fait quoi? On reste assis? On regarde le ciel? On dit viens bientôt, Seigneur Jésus. Qu'il a donné son fils unique. Unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a qu'un. C'est son fils et il est unique. Dieu donne, puisque c'est un Dieu d'amour, hein, Dieu a tant aimé le monde. Dieu donne le meilleur de lui-même. Il ne peut pas donner plus ni mieux. C'est le meilleur de lui-même. Et vous savez ce que ça signifie, le mot chef en hébreu ? C'est machal. Alors le machal, ce n'est pas le maréchal, hein, c'est pas le machal. Le machal, c'est celui qui domine. Alors, vous comprenez, Hérode, le chef religieux, celui qui préside. Oh, c'est moi qui préside maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est okay. Celui qui gouverne, celui qui règne, celui qui a l'autorité. Alors moi, je peux comprendre qu'Hérode, il était dans ses petits souliers à ce moment-là. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, c'est moi. C'est moi qui préside. C'est moi qui gouverne. C'est moi le chef. Ben non, c'est plus toi. Enfin, tu peux continuer, mais... Donc Dieu ne pouvait pas donner mieux. Et vous voyez ce que ce passage nous dit ? Car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique. Il ne l'a pas prêté, juste pour un instant. Jésus qui arrive dans son jumbo 747, boum, il se pose sur l'aéroport, il descend les escaliers, il va dans une salle, 5000 personnes, il fait son message et ciao Bella, je m'en vais ailleurs. Ben non, il ne l'a pas prêté. Il a dit, je vous donne le meilleur de moi-même. Je vous le donne. Est-ce que vous le voulez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Vous connaissez l'adage, hein ? Je pense qu'il vient de Dieu. Donner, c'est donner, reprendre, c'est... Ah voilà. Ce n'est pas dans la Bible, mais je pense que ça peut être dans le cœur de Dieu. Quand tu donnes, tu donnes. Tu ne peux pas dire que je te donne un petit peu, puis tu me rends. Ça, c'est prêté. Donc Dieu, à un moment donné... Où mon ballon ? Quelqu'un qui a un marteau ? Il ne tient pas le coup, lui. Vous n'êtes pas comme lui. Hein. Donc, Dieu nous dit, mais il est à vous, je vous le donne. À Noël, on va se faire des cadeaux. On n'est pas en train de dire, oh, je te donne, et puis, ouais, écoute, si dans 15 jours, tu me le redonnes, c'est parfait. Hein. Non. Il le dépose précautionneusement dans le ventre de Marie, qui va le porter. Elle le porte. Elle porte Genèse 3,15 en elle. Et quelque temps plus tard, il va le déposer douillettement dans la crèche de Bethléem. La parole de Dieu s'est accomplie. La mission peut commencer. Amen. Et là vient le troisième passage. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi ? Afin que ça reste toujours comme avant. Ça n'a rien changé. Afin que quiconque croit en lui. Stop. Ouais, en lui. Afin que quiconque croit en lui. Attends, et stop, pas si vite. Hein. Non. D'abord, je veux connaître ton programme. Quel est ton programme, le chef ? Allez, dis-nous ce que tu as vraiment sur le cœur pour nous. Hein ? Petite baisse d'impôts ? Est-ce que tu vas faire mieux que les chefs qui nous dirigent maintenant ? Est-ce qu'il y aura un peu plus de démocratie dans ce pays ? Hein ? La semaine des 32 heures ? Enfin, voyez ? C'est quoi ton programme, le chef, le machal ? Qu'as-tu à nous proposer ? Qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Ouais, on se connaît tous, hein ? Voilà, il y a des élections dans notre ville, etc. Il y a des affiches, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, on ne prend pas le temps non plus vraiment d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce que ces gens, ils essayent quand même de faire connaître leur programme, etc. Bon. Ben, ce que Jésus a proposé, c'est ni plus ni moins Marc 1,15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le programme de Jésus. 4 points. On ne va pas développer maintenant, mais ça va pas chercher très loin. Mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. 4 choses. Là, même l'école primaire, on comprend tous, hein, si on veut. Oups, maintenant ça commence bien là. Hein. C'est reparti pour un tour. Hein. L'air de Jérusalem ne fait pas du bien à tout le monde. Appelez le SAMU. Vous voyez les gens, quand ils entendent ça, c'est le programme de Jésus. Ils se disent, ça y est, c'est un illuminé de plus. Vous voyez, parce qu'à l'époque, En Israël, il y avait beaucoup d'illuminés, hein, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'il y a des postes de secours à Jérusalem pour les gens qui font des crises mystiques. Ben oui, on arrive là, l'air de Jérusalem, ça vous prend tout. Hein. Trente ans plus tard, même pas un quinquennat là. Hein. Donc Jésus, il a tenu 3 ans là. Luc 22, 47. Comme il parlait encore, une foule arriva. Ils n'étaient pas en train de taper dans les mains. Jésus, Jésus, au pouvoir. Pas du tout. Après l'avoir saisi, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et après l'avoir amené devant Pilate, ils se mirent à l'accuser. Ils s'écrièrent tous ensemble. Fais mourir celui-ci et relâche nous Barabbas. Voilà. C'est fait. On peut aussi dire c'est fait là. Hein. On a pris une décision. On a fait un choix humain. Voilà ce qu'ils ont fait du chef. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui encore du chef. On n'en veut pas. Ton programme ne nous intéresse pas. Ah, je dis pour la plupart, malheureusement. Hein. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont pas voulu. Non, dégage. Nous, on a nos chefs. Donne-nous un roi comme le reste des nations. Hein. Vous connaissez cette parole. Alors, on arrive gentiment au bout. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que le plus grand événement de l'histoire s'est produit au vu et au su de milliers de personnes. Et d'une manière ou d'une autre, ce qui a été vu et entendu et vécu va être transporté, même si ce n'était pas le TGV et le Jumbo 747 à l'époque, c'était à d'autres chameaux, à d'autres chevaux, en bateau. Mais cette nouvelle va se répandre dans tout le bassin méditerranéen très rapidement. Donc des milliers, des centaines de milliers de personnes vont quand même entendre parler d'un Messie qui serait venu, mais qu'on a crucifié, et puis qui tout d'un coup voilà, est ressuscité. Pourtant, il n'est pas dit que le chef en question est venu pour que tout le monde plie le genou devant lui. Ce n'est pas un dictateur, Jésus. Il est dit quiconque croit. Tu es libre. Même à l'église de réveil, on ne t'oblige pas de croire. Mais c'est mieux. Hein? L'amour ne s'impose pas, il se laisse apprivoiser. Et là aussi, on n'a rien... Enfin, rien, excusez-moi. Quand je dis. Mais c'est vrai, on n'a rien compris. On a fait cette histoire, une histoire de religion, où je dois, et je dois, et je dois encore, puis j'en fais pas encore assez, et puis il faut que je prouve à Dieu. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Si ça a été ça, la base de votre mariage, ben... inviter le pasteur pour un petit entretien. On n'a rien compris. Jésus, il ne vous demande pas, il ne vous oblige pas de l'aimer. Il vous propose de l'aimer. Il s'offre à vous. C'est un gentleman. Il ne casse pas la porte, il frappe à la porte. Et si quelqu'un entend et l'ouvre, eh ben il va souper avec cette personne. Et la quatrième, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. On entre dans cette phase, et pour ceux qui ont des enfants encore un peu en bas âge, ils savent bien que c'est Noël, hein, nos enfants. Les enfants du monde entier savent que c'est Noël, et ils savent que dans ce moment-là ils peuvent demander des choses très particulières qu'on leur donnera peut-être juste à l'anniversaire. Mais Noël, et mon gars, il faut aller, il faut mettre le paquet. Hein, papa et maman, ils ont plein de sous dans la poche. Hein, il y a le 13e, il y a tout. Et puis nous, on est là. Et puis Jésus nous dit, mais moi, je ne veux pas que tu périsses. Je veux te donner la vie éternelle. Puis on dit, ouais, c'est pas mal. Tu n'as rien d'autre à proposer. Non, mais je me mets un peu dans l'esprit du monde, hein, vous comprenez. Je ne dis pas que ça, c'est le chrétien qui dit ça, mais voilà, face à cette offre incroyable, on a l'impression que, bon, ouais, voilà. Hein. Parce que quand on ignore le chef, hein, en rejetant ce qu'il est en vérité, on n'entend pas la fin de ce qu'il a à nous dire. Et en fin de compte, c'est toujours la fin de l'histoire intéressante. Parce que moi, je peux vous entraîner dans une histoire sans fin. Puis vous me suivez. Et puis, il y a le précipice à la fin. Mais si j'écoute Jésus jusqu'à la fin, j'entends cette proposition. Je t'aime tellement que je veux faire ma vie avec toi. Et l'épouse, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Il ne va pas y tourner autour pendant... Il veut l'épouser. Il est déterminé. Il est prêt. Puis l'épouse, elle est là, encore un petit peu. Passer chez Rosie, la coiffeuse, des belles coupes. Donc, on n'entend pas ce que Jésus nous dit jusqu'à la fin. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Nous, on préfère notre petite vie, 70-80, 90 ans maintenant même. Un petit peu monotone, c'est vrai, un peu banal, mais c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. Et on ne se rend pas compte qu'on va partir pour l'éternité sans savoir où on va. Terrible. Alors qu'on pourrait savoir, on pourrait avoir des certitudes, des convictions qui s'inscrivent en nous. Alors je termine. Ça va, vous êtes... Ouh là là. Mais c'est tellement... Ouais. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là. Bon, Jésus a été crucifié, il y a quelques illuminés qui disent qu'il est ressuscité, ça va durer quelques mois, puis au bout de quelques mois, on n'en parlera plus. Débarrassé de la question, et puis on pourra continuer. Hein? Mais alors vous me direz, comment ça se fait qu'il y a 2000 ans qui ont passé? Des millions et des milliards de paroles sont parties dans l'oubli complet. Pourquoi aujourd'hui, 2000 ans après, on parle toujours de Jean 3,16? Hein? Pourquoi? Et voilà, on rejoint le passage d'Ésaïe, où dit, Dieu dit, attends, vous êtes des blablateurs, hein, vous envoyez, vous dites ce que vous voulez, mais moi quand je parle, ma parole a une mission. Et cette mission, elle va la remplir. Alors quand même, c'est quand même étonnant, vous me direz. On a réussi l'exploit, je ne sais pas comment, c'est un miracle. Quelqu'un qu'on a traité comme un vulgaire malfaiteur, qu'on a considéré comme un usurpateur, comme un illuminé de première, on va inscrire dans l'histoire de l'humanité un avant et un après Jésus-Christ. C'est pas avant ou après Bouddha, c'est pas avant ou après Mahomet, c'est 150 ans avant Jésus-Christ et puis 2000 ans après Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Ça fait longtemps que ce chef-là, on ne l'a pas voulu. Et toutes les années, quand on recommence, c'est l'an de grâce, hein, 2016, après Jésus-Christ. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, le monde entier, même si on est musulman, si on est bouddhiste, si on est zéniste, si on est tout ce qu'on voudra. Donc cette parole aurait pu tomber dans les oubliettes, ben non. Elle est présente, même à la fin. Pourquoi? Et là, ça vous concerne. Et là, ça me concerne personnellement. Cet événement clé, cet événement charnière de l'histoire de l'humanité, si... il a pu se réaliser. C'est bien sûr grâce à Dieu, n'est-ce pas? Père, Fils, Saint-Esprit. D'accord. C'est vrai que, comme toutes les grandes productions cinématographiques, vous avez un scénariste, vous avez le metteur en scène, et puis les acteurs principaux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais imaginez un film style Kings and God, l'histoire de Moïse, hein, le dernier film qui est sorti. Vous l'avez vu celui-là? Ben, la plupart ont vu Moïse le premier, hein, quand il est devant. Comment non? Quand il est devant la mer Rouge, puis qu'il monte son bâton avec sa grande barbe, non? Voilà. Imaginez Ben-Hur. Qui c'est qui a vu Ben-Hur? Tout le monde.
Oui,
Ben-Hur, voilà. Voilà. Imaginez ces films sans figurants. Il n'y a que les acteurs principaux qui sont là. Il y a Ben-Hur et Messala. Il y a Moïse et Pharaon. Il n'y a rien d'autre. Oh, passionnant le film, hein. Waouh, là, 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 impressionnant. Moïse qui part tout seul au bord de la mer Rouge, et puis Pharaon avec son cheval, avec son truc, avec... Ouh, il est derrière lui. Non, mais vous imaginez. Il n'y a personne qui va voir un film comme ça, hein. Moi, ça me faisait aussi rire quand j'ai écrit ça. Je me suis dit, Seigneur, tu as vraiment de l'humour. Hein. Bon, si cet événement-là a pu se produire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a pu se produire? Parce qu'il y avait des figurants, et pas des moindres. Des figurants qui ont pris au sérieux Genèse 3.15, qui l'ont reçu, qui l'ont gardé, qui l'ont protégé, Genèse 3.5, parce qu'ils y croyaient, qui l'ont porté, qui l'ont transporté, qui l'ont transmis. Vous imaginez cette grande nuée de témoins, on y arrive. Cette grande nuée de témoins. Moi, je les avais oubliés un peu, ceux-là. Et j'avais oublié que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu à cause d'eux. C'est eux qui ont aussi payé de leur vie pour que cette prophétie s'annonce. Enlevez Abel, Enoch, Noé, enlevez-les des récits bibliques. Oups, allez, oust. Enlevez Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, Moïse, Josué, le peuple d'Israël, David, enlevez-les tous. Mais il reste quoi? Pas grand-chose, hein? Mais tous ceux qu'on... Hébreux 11, vous avez déjà lu Hébreux 11? Les témoins de la foi. La grande nuée de témoins. La parole de Dieu ne s'y trompe pas. Elle n'oublie pas le rôle majeur qu'ont eu ces témoins tout au long de l'histoire. Dieu sait. Dieu connaît chacun, chacune d'entre eux. Ils ont joué leur rôle à la perfection, permettant l'accomplissement de Genèse 3.15. Imaginez Marie qui dit, « Oh, à l'ange, non, surtout pas, à l'ange, sache, non, non, alors on va trouver quelqu'un d'autre, mais pas moi. Enfin, » tous auraient pu dire ça. Moïse a dit ça. « Mais je bégaye. Et me retrouver devant... » Non. Ils ont cru à cette parole. Ils l'ont portée au péril de leur vie. Et ils y sont arrivés. Hébreux 12.1. Nous donc, si, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Est-ce que vous les voyez, ces témoins? Ce matin, je les ai vus quand j'étais assis à ma place. Je les ai vus. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est intéressant, cette image. Vous avez des footballeurs, hein? Prenons Barcelone, Bayern Munich. Tout le monde connaît, hein? Prendre la Chaux-de-Fonds et puis Boudry, mais enfin bon. Voilà. Toute la semaine, ils s'entraînent. Oh, c'est cool. Hop, ils se font des petites passes, ding, poing. Voilà, ils marquent des buts comme ça à l'entraînement. Et vient le samedi. Samedi, ça devient sérieux. L'adrénaline commence de monter dans le vestiaire, ça commence de bouger. Le cœur tape un peu plus fort. Allez les gars, on est prêts. On donne la main au petit garçon, à la petite fille qui va nous conduire dans un stade de 100 000 personnes. 100 000 personnes ont payé pour venir te voir shooter. Tigri-gram, boum, marquer un but. Et c'est le délire dans le public lorsqu'un but est marqué. Et moi, j'ai vu ces témoins ce matin. Ils sont là, ils regardent le stade de la terre. Et ils sont en train de regarder... chrétiens jouent, qu'est-ce qu'ils se font comme passe, quel but ils marquent, comment est-ce qu'ils jouent en défense, comment est-ce qu'ils se passent le ballon, Jean 3.16, tu l'as Jean 3.16, vas-y, porte-le plus loin, atteins le but, c'est la mission. Ils nous regardent, autrement ça ne serait pas marqué, environné d'une si grande nuée de témoins en train d'être dans des chaises, là, oh, c'est bientôt fini ce match, c'est nul, hein, j'y arrive plus moi, hein. Non. Il y a une passion dans le ciel, pour voir ce qui est en train de se passer sur cette terre. Et moi, je rentrais sur le stade et je n'étais pas prêt. Et c'est pour ça que j'ai été saisi. Enfin, pas prêt. On se comprend, hein, on essaye, on voilà. Mais je me suis dit, mais est-ce que tu t'es bien entraîné cette semaine? Est-ce que tu es prêt à entrer dans le stade? Est-ce que tu es prêt à descendre dans cette, dans cette arène qu'est la ville de La Chaux-de-Fonds, juste pour passer Jean 3 à 16. Oh, c'est quand même pas grand-chose, non? Il a dit, oh, ben, non, mais alors moi, ça va pas. Le 3, non, le 2 ou le 10, alors là, c'est le 7, alors, oh, sûrement pas. Désolé, pasteur, tes idées sont super, les bancs sont beaux, bien gonflés, tout. Non, vous voyez ça? Je mets la pression sur personne. Hein. C'est pas parce que vous allez descendre 3 samedis suite dans la ville. Voilà. Mais c'est une occasion. Et vous savez, en football, quand on loupe des occasions, c'est 0-0. Hein. On sort, on n'est pas très satisfait. Hein. Pourquoi je n'ai pas marqué ce but? Devant 100 000 spectateurs, j'aurais été la vedette de la journée. Ce n'est pas pour être la vedette de la journée. C'est juste pour continuer cette longue lignée de témoins. Elle ne doit pas s'arrêter. L'Ancien Testament s'est terminé avec « Tout est accompli », n'est-ce pas? Quand c'est que ça se termine pour nous? Ah. Moi, enfin, c'est ma vision des choses, c'est quand cette voix, on a lu tout à l'heure, hein, dans Apocalypse, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a lu? Il y a une voix à un moment donné, celle de Jésus, qui va dire « C'est fait !» Là, ça sera fini. Là, ça sera fini. Moi, je vais entendre cette voix qui dit « C'est fait ». Je sais que tout est accompli, mais ce n'est pas encore fait. Et c'est pour ça que, dans Hébreu, il est dit « Attention !» Normalement, on devrait courir avec persévérance, même si c'est dur, même si ça coûte. Ah, mais le péché, il est là. On en a assez parlé du péché. Puis il est là, puis il nous dit « Mais non, vire un peu à droite, vire un peu à gauche. Va pas au centre de la cible, surtout pas, surtout pas. » Cette longue lignée de témoins, cette chaîne ininterrompue ne doit pas s'arrêter avant que le « c'est fait » est proclamé. Là, on pourra se lâcher. Là, ça sera du lâcher prise. Il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni cris, ni douleur. Ouh ! Là, ça va commencer. Là, ça va commencer. Alors voilà, je crois que je nous ai assez dit. Hein. C'est fait. Je vous laisse ça. Voilà. Et juste pour terminer, c'est dans cette perspective-là que l'opération Jean 3,16 doit se vivre. Alors, on donnera des informations mardi soir, on va prier aussi pour ça. Mais même si vous ne pouvez pas venir ces trois samedis, c'est pas grave, on ne va pas commencer de vous pointer. Mais vous pouvez le vivre de manière très diverse. Peut-être que ça ne sera pas Jean 3,16, ça sera peut-être autre chose. Peut-être que vous ne pourrez pas venir en ville, ou que vous n'avez peut-être pas encore la force ou le courage ou voilà, les arguments nécessaires. Mais vous pouvez prendre un évangile. Vous pouvez faire de nuit des boîtes aux lettres de votre maison. En espérant que le voisin ne rentre pas à 2h du matin, hein, il est un petit peu bourré, bon voilà, profitez. Non, hein. Il y a mille et une manières. Mais surtout, rappelle-toi qu'aujourd'hui, tu fais partie de cette grande nuée de témoins. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous dis. Tu parles, Seigneur, tu nous dis des choses. Et chaque fois qu'on a reçu une de tes paroles, ça nous a fait du bien. C'était difficile, ça a provoqué des luttes, des combats, mais en fin de compte, c'était pas le précipice, c'était pas la fin, c'était... Ça nous faisait du bien, parce que ça nous aidait à marcher un peu plus, Seigneur, avec toi, près de toi, à entrer dans la mission que tu avais pour nous. Alors je te prie pour chacune et chacun d'entre nous maintenant. Tu as parlé ce matin. C'est à nous de répondre. Merci de nous donner la force de répondre selon ton cœur à toi, Jésus. Amen.